XVe siècle qu'il possédait, ornée de naïves gravures sur bois, une image surtout l'intéressait. Le vieux roi David rentrant dans sa chambre, la main posée sur l'épaule nue d'Abisaïg, la jeune Sunamite. Et il lisait le texte sur la page voisine. Le roi David, étant vieux, ne pouvait se réchauffer, quoiqu'on le couvrît beaucoup. Ses serviteurs lui dirent donc « Nous chercherons une jeune fille vierge pour le roi notre seigneur, afin qu'elle se tienne en présence du roi, qu'elle puisse l'amuser, et que, dormant près de lui, elle réchauffe le roi notre seigneur. » Ils cherchèrent donc dans toutes les terres d'Israël une fille qui fût jeune et belle. Ils trouvèrent Abisaïg, Sunamite, et l'amenèrent au roi. C'était une jeune fille d'une grande beauté. Elle dormait auprès du roi et elle le servait. Ce frisson du vieux roi, n'était-ce pas celui qui le glaçait maintenant? Dès qu'il se couchait seul, sous le plafond morne de sa chambre. Et la fille des routes, la pèlerine d'amour que son rêve lui amenait, n'était-elle pas l'Abisaïg dévotieuse et docile, la sujette passionnée se donnant tout à son maître pour son unique bien? Il la voyait toujours là, en esclave heureuse de s'anéantir en lui, attentive à son moindre désir, d'une beauté si éclatante qu'elle suffisait à sa continuelle joie, d'une douceur telle qu'il se sentait près d'elle comme baigné d'une huile parfumée. Puis, à feuilleter parfois l'antique Bible, d'autres gravures défilaient. Son imagination s'égarait au milieu de ce monde évanoui des patriarches et des rois. Quelle foi en la longévité de l'homme, en sa force créatrice, en sa toute-puissance sur la femme, ces extraordinaires histoires d'hommes de 100 ans fécondant encore leurs épouses, recevant leurs servantes dans leur lit, accueillant les jeunes veuves et les jeunes vierges qui passent. C'était Abraham centenaire, père d'Ismaël et d'Isaac, époux de sa sœur Sarah, maître obéi de sa servante Agar. C'était la délicieuse idylle de Ruth et de Boz, la jeune veuve arrivant au pays de Bethléem pendant la moisson des orges, venant se coucher par une nuit tiède au pied du maître, qui comprend le droit qu'elle réclame et l'épouse, comme son parent par alliance, selon la loi. C'était toute cette poussée libre d'un peuple fort et vivace dont l'œuvre devait conquérir le monde. Ces hommes à la virilité jamais éteinte, ces femmes toujours fécondes, cette continuité entêtée et pullulante de la race, au travers des crimes, des adultères, des incestes, des amours hors d'âge et hors de raison. Et son rêve, à lui, devant les vieilles gravures naïves, finissait par prendre une réalité. Abisaïg entrait dans sa triste chambre qu'elle éclairait et qu'elle embaumait, ouvrait ses bras nus, ses flancs nus, toute sa nudité divine pour lui faire le don de sa royale jeunesse. Ah, la jeunesse! Il en avait une faim dévorante. Au déclin de sa vie, ce désir passionné de jeunesse était la révolte contre l'âge menaçant. Une envie désespérée de revenir en arrière, de recommencer. Et, dans ce besoin de recommencer, il n'y avait pas seulement, pour lui, le regret des premiers bonheurs, l'inestimable prix des heures mortes auxquelles le souvenir prête son charme. Il y avait aussi la volonté bien arrêtée de jouir, cette fois, de sa santé et de sa force, de ne rien perdre de la joie d'aimer. Ah, la jeunesse! Comme il y aurait mordu à pleines dents! Comme il l'aurait revécu avec l'appétit vorace de toute la manger et de toute la boire avant de vieillir! Une émotion l'angoissait lorsqu'il se revoyait à 20 ans, la taille mince, d'une vigueur bien portante de jeune chêne, les dents éclatantes, les cheveux drus et noirs. Avec quelle fougue il les aurait fêtés, ces dons dédaignés autrefois, si un prodige les lui avait rendus. Et la jeunesse chez la femme. Une jeune fille qui passait le troublait, le jetait à un attendrissement profond. C'était même souvent en dehors de la personne, l'image seule de la jeunesse, l'odeur pure et l'éclat qui sortait d'elle, des yeux clairs, des lèvres saines, des joues fraîches, un cou délicat surtout, satiné et rond, ombré de cheveux follets sur la nuque. Et la jeunesse lui apparaissait toujours fine et grande, divinement élancée en sa nudité tranquille. Ses regards suivaient l'apparition, son cœur se noyait d'un désir infini. Il n'y avait que la jeunesse de bonne et de désirable. Elle était la fleur du monde, la seule beauté, la seule joie, le seul vrai bien, avec la santé, que la nature pouvait donner à l'être. Ah, recommencer, être jeune encore, avoir à soi, dans une étreinte, toute la femme jeune. Pascal et Clotilde, maintenant, depuis que les belles journées d'avril fleurissaient les arbres fruitiers, avaient repris leur promenade du matin dans la souleillade. Il faisait ses premières sorties de convalescent. Elle le conduisait sur l'air déjà brûlante, l'emmenait par les allées de la Pinède, le ramenait au bord de la terrasse, que coupaient seules les barres d'ombre des deux cyprès centenaires. Le soleil y blanchissait les vieilles dalles, l'immense horizon se déroulait sous le ciel éclatant. Et, un matin que Clotilde avait couru, elle rentra très animée, toute vibrante de rire, si gaiement étourdie, qu'elle monta dans la salle sans avoir ôté son chapeau de jardin, ni la dentelle légère qu'elle avait nouée à son cou. « Ah ! » dit-elle, « j'ai chaud ! Et suis-je sotte de ne m'être pas débarrassée en bas ? Je vais redescendre ça tout à l'heure. » Elle avait, en entrant, jeté la dentelle sur un fauteuil. Mais ses mains s'impatientaient à vouloir défaire les brides du grand chapeau de paille. « Allons bon ! Voilà que j'ai serré le nœud, je ne m'en sortirai pas. Il faut que tu viennes à mon secours. » Pascal, excité lui aussi par la bonne promenade, s'égayait en la voyant si belle et si heureuse. Il s'approcha, dut se mettre tout contre elle. « Attends, lève le menton. Oh, tu remues toujours, comment veux-tu que je m'y reconnaisse ?» Elle riait plus haut. Il voyait le rire qui lui gonflait la gorge d'une onde sonore. Ses doigts s'en mêlaient sous le menton